podcast.com. Essaye ça.
Hey, la sentez-vous à quel point c'est pratiquement ma fête? On est vraiment pas loin, là, c'est capoté. Là. À matin,
on arrive à l'apogée.
Ah oui, c'est ça, le périclitage, mesdames et messieurs, en attendant. En fait, ça va être sûrement la semaine prochaine, là, parce que c'est dans 7 jours. Mon nom est Tommy Godette. C'est à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic The Gathering. On est accompagné ce soir pour jaser de variété de sujets. On va commencer par Joe, parce que c'est lui qui nous choisit la trame sonore que vous entendez en background.
Ouais, ben, cette semaine, je suis allé avec un classique du Super Nintendo, Warlock Armageddon, qui est je pense qu'il y a eu 3 films Warlock dans les années 90. Ça, c'est le jeu du deuxième. Généralement, c'est pas des films que le monde se souvienne en bien, mais moi, je les ai bien aimés. Le soundtrack est quand même potable. Puis, je vous avertis par contre, si vous avez pas déjà joué au jeu, ça prend plus. Le trois quarts du temps qu'on prend pour essayer de finir ce jeu-là, c'est maîtriser les contrôles qui sont contre-intuitifs.
Bon, ben voilà un défi hein, pour les plus fans de maîtrisage de contrôle. Il y a Emmanuel Côté Séguin, aussi grand voyageur du Hit Dice, qui est
je suis là.
Vegas, Philadelphie, le passeport rendu estampillé mur à mur. Emmanuel, qu'est-ce qui se passe de bon?
Je suis finalement revenu chez nous après les rénos. C'est pour ça que ma bibliothèque est bien vite derrière moi.
Ah ouais, hein? Condo Sylvanie est en train de se métamorphoser.
Je dépacte les affaires tranquillement, pas vite.
Bon, ben voilà. Écoute, on espère que ça va se passer le mieux possible. Et bien entendu, notre sphinx, Jason Keys, qui est par-dessus une des premières maps du fantasy moderne. Il y a probablement le monde ibérique de Conan qui daterait d'un petit peu avant, là, mais que je me rappelle avoir vu des maps qui datent d'avant Tolkien.
C'est exactement ça.
On est pas mal dans ce qui s'est fait de plus vieux et tout. Hein. On va jaser de quoi aujourd'hui, Jason?
On va jaser de Middle-Earth, Lord of the Ring. On a sorti des spoilers aujourd'hui là, du set qui va sortir cet été. Je pense que c'est le set de l'été, là, Lord of the Ring. Puis ça m'a excité un petit peu. Moi, je suis un gros fan. C'est le film que j'ai comme trop vu souvent dans ma vie, là, le Lord of the Ring de Peter Jackson. C'est mon film de couple, là, moi puis ma blonde. On écoute ça à peu près aux 2-3 ans. Là, on se fait des petits marathons bien cute. On les écoute en deux séances chacun, hein, parce que one shot, c'est trop long.
C'est des longs, là, parce qu'évidemment, il faut que tu écoutes la version longue.
Ah, oui, il faut que tu écoutes la version longue.
Pourquoi que Frodon, il peut se transformer en roche à côté des méchants, là, qu'il n'y a pas de problème. Écoutez-vous aussi les trois plus récents, là, qui sont...
Ah, je trouve que c'est de la merde. Moi, le Hobbit, je suis pas capable. La télésérie sur Amazon, j'ai arrêté après l'épisode 3. J'étais juste comme...
j'ai pas osé ça encore. Ouf.
Écoute, c'est comme tout est comme impeccable, là, les effets spéciaux, les costumes, les décors, tout est impeccable, mais on dirait qu'il y a de quoi là qui fait que j'embarque pas puis je m'en calisse. Je sais pas.
Ça peut être une bonne affaire.
Vous pensez, vous
autres? Là, t'as un autre son de cloche de la série.
Je l'ai trouvé correct. Là, c'est ce que c'est. Là, c'est une série fantasy.
Jason, il est la plus 4.
Ça, c'est bien réalisé. Puis, ça va.
Moi, je trouve que, comme beaucoup de séries de réseaux de streaming, c'est très paint by number. On dirait qu'ils visent une démographie.
Le pacing est un peu weird, là, mais ça va.
C'est pas mon monde, moi, les séries. Ça fait longtemps que j'ai abandonné ça. Fait que sinon, on s'en va vers quoi en début d'émission?
Avant qu'on se plonge dans le Seigneur des Anneaux, j'ai une petite actualité. La semaine passée, on n'a pas parlé parce qu'on parlait de vieilles affaires. Ben, parlant de vieilles affaires, ça concerne le Legacy. Il y a eu un announcement. C'était le Banned and Restricted.
Enfin!
Qui est sorti le 6 mars. Enfin, diront certains, enfin diront beaucoup. C'était notre carte de l'année, v'là 2 ans. Express Progressive Iteration qui est banni en Legacy. Bye bye. Et également, c'était un candidat de notre carte de l'année passée, le White Plume Adventurer qui est banni en Legacy. Au revoir l'initiative dans mes vieilles dans cartes de Magic.
Plus de donjons à Legacy, merci.
Et voilà, fait que plusieurs personnes le réclamaient et c'est,
ah ben
c'est
moi,
fait.
J'attends un peu, là, wow. Fait que là, tu sais, mais c'est chiant, ça. Je venais de m'en acheter pour mettre dans des decks, fait que là, je peux pas.
Hey, ah, c'est ben, chez là. Vous, là, il n'y a pas de problème, Tommy.
C'est ce que tu veux.
C'est parce que là, c'était surtout avec... c'est les nouveaux, les decks d'Izette là étaient vraiment rendus trop forts, là, avec les le Murktide Regent, là, puis... je n'ai souvent parlé, là, c'est le bon vieux classique là, Pro West bleu-rouge, joue dans le graveyard. C'était vraiment trop fort avec Expressive Iteration. Fait que je suis content qu'ils l'ont, ils l'ont banni pour le compétitif. Mais tu sais, à la cuisine, dans la cuisine chez vous, lâchez-vous là.
Ouais. Leur objectif là, avec Izette, c'était justement le deck était comme trop fort. Puis il espère en enlevant cette carte-là, renforcer les deux. À la fois les forces et la faiblesse du deck pour le rendre un peu moins bon tout le temps. Je pense qu'il va être, c'est un deck qui a toujours été bon et compétitif en Legacy puis qui va le rester. C'est juste qu'il va peut-être avoir un petit peu plus de chance dans le méta.
Ouais. Sûrement qu'il va avoir aussi une espèce de je sais pas, de période d'adaptation que là les gens vont dire ah ben j'ai enlevé deux Lightning Bolt mettons pour à la place mettre puis là il va avoir des différentes variables là, avant de parce que souvent ça devient un petit peu comme consensuel là, c'est quelle la forme que ça prend ces decks là rendus tellement haut hein. On a déjà parlé de net decking ici là avec le jeune en haut à gauche là, Chuck Gauthier qui regarde dans les airs comme s'il savait pas de quoi qu'on parlait. C'est ça, c'est-tu. Fait que, ben, est-ce que c'est tout?
C'est tout. Il touche pas à aucun autre format. Il trouve que ça va ou que si ça va pas bien, ben, on va laisser ça aller encore un peu. On va voir comment ça se passe.
Bon, ben, correct. Chris, Legacy des modifications, ça arrive pas souvent, pareil.
C'est pas vrai. C'est rare qu'il touche, c'est rare qu'il touche.
Ouais, il y avait eu au cours dans le temps.
Ouais, mais White Plume Adventurer, là, c'était à qui parle. C'était juste ridicule. C'est chaque fois qu'il faisait en sorte que chaque fois qu'une créature faisait du dégât, t'avançais dans le donjon.
Oh shit.
Tu prenais le
ouais, puis l'affaire.
Tu prenais le chemin là, qui te fait piger des cartes, là, puis c'était juste.
Ouais, puis en single player, ça snowballait trop rapidement. Si ouais. Tu réussis à garder l'initiative 2-3 tours d'affilée. Oublie ça, là, tu sais. C'était un peu plus balancé en multiplayer où est-ce qu'il y a plus de chances que l'initiative te déplace, là.
Ouais, qu'elle aille mourir, j'ai le plus faible pendant un temps ou ce genre de patente-là, là. Ouais. Ben, écoutez, ça nous amène à l'autre dossier. D'abord, on va
Tolkieniser. Oui, on va tolkieniser, ouais. J'ai préparé un petit truc. On va se plonger un peu dans un retour aux sources. Parce que je pense que tout le monde connaît Lord of the Rings, là, puis je vais juste peindre ça à gros traits, là. Mais il y a certains petits fun facts que j'aime bien rappeler et raconter derrière le processus, là, parce que c'est quand même, comme on a dit, hein, c'est le point zéro là, de la medieval fantasy.
Un update.
Magic est issu. Disons, après les légendes arthuriennes, c'était pas mal.
Ben, c'est ça. C'est pas mal copié là-dessus. C'est que Tolkien, il est né en Angleterre, puis il tripait sur la mythologie viking, il tripait sur la mythologie anglo-saxon, et dans une moindre mesure, les mythes grecs, là, mais c'était surtout. Ce qu'il se plaignait, c'est qu'il trouvait que. On est après là, les belles années de l'époque victorienne. Il trouvait que ça manquait de mythologie spécifique au Royaume-Uni. T'sais. Puis lui, ce qu'il se disait, c'est qu'il allait créer, c'est une espèce d'ambitieux, là. Il allait créer une mythologie pour les anglophones en s'inspirant là, de tout un mélange, là, les anglo-saxons, les vikings, les germains. Fait qu'il trippait beaucoup sur Beowulf, hein, la saga de Beowulf, oui. Là, qui est pas mal la base de toutes les affaires de Vikings, Thor, Yggdrasil, l'arbre, ces affaires-là. Tolkien trippait bien gros là-dessus, il a écrit un livre sur le sujet d'ailleurs. Pendant qu'il faisait ses recherches, ben, il y a eu la Première Guerre mondiale, puis c'est venu un peu comme brasser. D'ailleurs, il montre là, dans le film Tolkien, que je recommande, là, qui est vraiment excellent. qui est une espèce de film biographique. La Première Guerre mondiale, ça l'a vraiment choqué. Hein. Il a participé dans les pires batailles de la Première Guerre mondiale, la bataille de la Somme, où ce qui était, genre, je pense que c'était comme 60 000 soldats qui étaient morts en une journée. Genre de grosses boucheries, là. Puis c'est un truc qui l'avait marqué, c'était comment le terrain, comment la guerre détruisait le terrain, la nature. C'était tout ce qui restait, c'était comme des étendues noires dévastées. On reconnaît là, en fait, c'est ça qui va lui donner toute l'idée là, du Mordor. Hein, le Mordor, les orques. C'est une grosse allégorie sur la Première Guerre mondiale. Son expérience qu'il a connue sur le front de l'Ouest. Et il a voulu comme transférer ça dans ses histoires. Ça a été une grosse source d'inspiration. La première affaire qu'il va écrire, cependant, parce que lui, il était prof d'université en littérature anglaise. Et le premier qui va publier dans un but commercial, c'est Bilbo le Hobbit, qui va sortir en 1937. Et contrairement aux autres, là, il n'y avait pas d'ambition de mythologie là-dedans. C'est simplement, c'est raconter une histoire pour les enfants. C'est très... j'ai lu à mon garçon récemment, d'ailleurs. Là, puis ça,
ouais,
ça
me semble que c'est quand il est devenu grand-père que ça l'a comme stimulé à mettre ça à jour, ces histoires-là.
Oui. Et bon, c'est là que l'anneau apparaît pour la première fois. Mais au début, dans le Hobbit, il y a le fameux anneau de pouvoir, il est dedans. Mais c'est juste un anneau qui rend invisible. Il y a Gollum dedans, il y a Bilbo. Il y a pas mal de bases qui a été mis là-dedans. Là, les elfes, les dragons, les nains. Il y a pas mal tout casé son monde. Il avait déjà écrit le Cimarion, les premiers brouillons de Cimarion, le fameux Cimarion, qui est la mythologie de base à travers laquelle il va tirer le Seigneur des Anneaux. Là. Ça avait déjà été écrit au début des années 30. Pas la version qu'on connaît aujourd'hui, là, mais les premières bribes. Et The Hobbit va avoir un gros succès et ça va l'encourager à écrire Lord of the Rings. Lord of the Rings a été écrit pendant les années 40. Dans le fond, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Tolkien, il est rendu trop vieux pour la Deuxième Guerre mondiale. J'ai participé à la première. Surtout, ce qu'il fait, c'est être chez lui à écrire. C'est une façon de en même temps, de s'échapper de...
Ben, sûrement.
Là. Et ce qui je trouve fascinant, c'est que lui, son but au début, c'était pas... on le connaît sous la forme de 3 livres, adapté en 3 films, mais quand ça a été écrit, c'était one shot, t'sais, dans sa tête, là. Et ça a tout le gros a été écrit au début de pendant les premières années des années 40. Et il a fait Fellowship of the Ring puis Return of the King. Ce qu'on connaît aujourd'hui comme Fellowship of the Ring puis Return of the King au début, c'est seulement comme vers 49 que là, les éditeurs ils ont dit « Ouais, je pense qu'il te manque comme un bout, là. » Tu sais, il y a comme un genre de creux entre les deux. Fait que là, il a comme rentré ce qu'on connaît de Two Towers. En fait, il a comme inventé le personnage de Saruman un peu vers la fin. Fait que ce qui est comique, parce que tu sais, quand on lit le livre, il est pas dans l'ordre chronologique qui a été inventé.
Ben oui.
Fun fact comme ça, là, c'est que c'est de Two Towers, là, les deux tours, ça a été rajouté par après. Les éditeurs vont dire « Bon, ton affaire, c'est trop gros, faut qu'on sépare ça. » Il a failli être en 6 volumes, mais finalement, il était en 3 volumes. Donc, Fellowship of the Ring, Two Towers et Return of the King. Et ce qui est le fun à lire, c'est les critiques le Fellowship of the Ring est sorti en 1954. Et tout de suite, les gens ont fait comme « Arc ». Et il y a un critique anglais qui a dit notamment qu'il ne comprenait pas l'intérêt de ce genre d'histoire-là et qui disait que c'est des fantaisies d'enfants qui se prennent pour des adultes.
C'est un peu ça.
Un peu ça, hein? Fait que ça, c'est en Angleterre, tu sais. Puis ça fait que ça va comme. Il va gagner des prix littéraires pour ce qui est de la fantaisie, ces choses-là. Mais tu sais, comme du public en général, ça va pas trop pogner. Où est-ce que ça va pogner? C'est dans les années 60. La maison d'édition de Tolkien, ils ont fait une erreur. C'est qu'ils ont publié le livre aux États-Unis. Et aux États-Unis, il faut que tu enregistres ton copyright aux États-Unis lui-même. Le copyright des autres pays, je sais pas si c'est encore le même aujourd'hui, là, mais à l'époque. Le copyright des autres pays ne fonctionne pas aux États-Unis. Fait qu'au début des années 60, une compagnie qui s'appelle Ace Book, que eux, ils ont comme. Tu sais, ils cherchaient comme. C'est un peu comme du piratage, là, avant le piratage.
Ah oui, vraiment.
Ils cherchaient comme des livres qui étaient sortis des années 50 qui n'avaient pas pogné, puis ils les repackageaient pour les revendre format, format, parce que tu sais, Tolkien, c'est un hardcover, là, c'était comme un livre dur vendu dans des librairies, mais pour que tu mets dans une bibliothèque. Ace Books, ce qu'ils faisaient, c'était des, ce qu'on appelle des
Pocket Edition.
Ouais. Ouais, des Pocket Edition, là, des livres que tu lis dans le bus en voyage, etc. Et dans le fond, ils ont publié eux-mêmes les trois livres. Sans là, de, avoir de compte à rendre à Tolkien là, en vrai piratage. Merci, bonsoir. Et ça, il y a eu par un bouche à oreille sur les campus américains. On est dans l'été 1966, là, le mouvement hippie, ça commence. Et c'est vraiment là que Tolkien connaît son gros succès, là, que ça va devenir comme un phénomène. Gary Gygax, là, c'est là qu'il va se mettre à lire ça et avoir l'idée après ça de faire Donjon Dragon. C'est là que ça commence. L'été 1966 et les années qui vont suivre, la version piratée de Lord of the Rings. Ça va vraiment pas connaître un gros engouement. Là. C'est ce qu'on appelle la première vague de Tolkien. Et ensuite, dans la vague de tout ça, t'as Ralph Bashki et sa gang là, qui t'a faisaient de l'animation. Eux, ils ont dit, nous, on va mettre Lord of the Rings en film. Puis ça a pris comme du temps avant qu'ils ont réussi à faire le film qui est sorti, le film animé qui est sorti dans les années 70. Et que je me rappelle, quand j'étais jeune, tu voulais voir Lord of the Rings en film, c'est tout ce qu'on avait. Puis ça s'arrête aux deux tours.
Ouais, c'est long et pénible, mais...
Raconte-nous, Joe. Je veux t'entendre là-dessus.
En passant, il y a une suite après. Je sais pas si là dans ton montage qui est insupportable.
Non.
Mais le Ralph Bakshi, c'est un directeur d'animation qui est connu pour pratiquement lui tout seul avoir tué l'animation en Amérique du Nord parce que c'était toujours le plus bas soumissionnaire.
Ah ouais?
Ouais. On pense aux mèmes de Spider-Man puis toutes ces affaires là, c'est très lui. Il a quand même fait des scènes que visuellement moi je trouve très intéressantes, mais Lord of the Ring, je pense qu'on a tout eu cette petite phase là où c'est que ça jouait à TQS ou on louait le VHS, on voulait l'écouter au complet, puis on cognait des clous, mais on voulait l'écouter au complet là. Fait que je pense que c'est...
Le film d'animation se termine au début de la bataille du gouffre de Helm là, qui finit le deuxième film. Ça a été particulier parce que c'est pas que ça a été la première fois, là, mais tous les méchants étaient joués par des humains, puis tous les gentils étaient joués par des dessins animés. Fait que les orques puis tout, ça avait un bel effet dans le temps, mais ouais, Ralph Bakshi, c'est pas quelqu'un qui était invité à tous les parties d'animateurs, mettons.
Ouais, non, surtout son dernier film, Cool World, c'est un peu weird.
Ouais.
j'ai écouté, la semaine passée, j'ai écouté Fire and Ice, là, puis c'est que c'est mauvais.
C'est moi, je l'adore.
Ouais? Ah, j'ai eu de la misère.
Mais c'est ce genre de film que moi, je regarde l'animation, je regarde la production, je regarde comment que ça a été monté, puis... on s'entend que c'est comme même chose que Lord of the Rings, c'est de la rotoscopie dans le tapis, c'est juste des acteurs qui dessinent par-dessus. Là, on a beau cracher là-dessus, mais aujourd'hui, là, ce que je vois qui s'en vient dans les années à venir, c'est on utilise du AI animation, fait que ça va être des acteurs, puis qu'on fait juste mettre un fil par-dessus. Ouais. Des fois, c'est bien fait, des fois, c'est mal fait, mais je te dirais, ça reste que c'est un incontournable dans le cinéma, à mes yeux.
Je trouve les décors cool, mais je trouve que souvent, les personnages, ils manquent. Parce que c'est des vrais acteurs filmés, mais ils ont tout le temps l'air tout nus, même s'ils sont habillés.
Ouais.
Le linge, l'équipement, ça manque. Je trouve que ça c'est ça qui me frappe.
C'est tout des tons plats, parce qu'il n'y avait pas de budget pour rajouter comme un effet d'éclairage ou quoi que ce soit. Puis t'as des expressions faciales qui...
Il n'y en a pas.
C'est des fois, genre comme... Tu vas voir, mettons, pas Bilbo, mais Frodo, genre, comme sa face va changer. Puis, je sais pas si c'est la faute de l'acteur ou de l'animateur, mais tu sais, ça donne des zooms que tu catches pas vraiment l'émotion, comme, étant donné que c'est, ils ont juste dessiné par-dessus la face, au mieux d'animer la terreur.
Ouais.
Ça se véhicule vraiment mal pour l'histoire. Puis, comme Tommy disait, le film se termine que, sûr comme ils se rendent dedans. Fin.
Ah, et puis le Balrog est tellement laid, là, il a l'air d'un gros papillon. Là.
Ouais. Mais le ils ont... Je me sais plus c'est qui, quel studio qui ont décidé de faire une genre de suite par rapport à ça, puis par la suite ils l'ont packagé en duo. Et si vous trouvez que Lord of the Ring est rough, checkez l'autre film d'animation dont le nom échappe.
Je savais même pas qu'il y avait un deuxième.
Ouais, ah, c'est, je m'excuse de l'avoir mentionné.
C'est... Ah, c'est cool. écoute, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, comme quand on dit que Lord of the Rings, elle a commencé des tendances, c'est, tu sais, bon, tu sais, il y a eu Conan en 1980, puis tu as eu tout un paquet de films Sword and Fantasy dans les années 80 qui étaient, la majorité était vraiment mauvais, et ça l'a un peu tué le genre, tu sais. Moi, je me rappelle, je lisais des entrevues dans les années 90. Pourquoi on fait pas de film de Lord of the Ring? Ah, ben, parce que ça pognera pas, c'est tout le temps mauvais. Et le fameux film de Donjon Dragon sorti en 99, c'était un peu ça la critique qu'il y avait, là. C'était comme, et voilà, tu sais, we told you. Mais, heureusement, c'est Peter Jackson en 2001, il a sorti son Fellowship of the Ring, sa trilogie, et je pense que ça l'a pas mal restarter le genre dans la culture populaire, là, autant dans les jeux vidéo que les Donjons Dragons de Pab. Moi, je me rappelle, j'allais à Bicoline à l'époque, puis il y a eu une vague.
On l'a senti,
là, le monde qui se faisait des costumes Lord of the Ring. C'était comme OK.
Les elfes étaient populaires.
Oui. J'aimerais t'entendre, Tommy. Je t'ai jamais entendu parler de Lord of the Rings. J'ai entendu parler de plein de films que personne n'a jamais entendu parler, mais je t'ai jamais entendu pitcher ou praise Lord of the Rings, le film.
Moi, mon préféré, c'est de loin le premier. J'ai trouvé ça le
film. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Quand il y a des ennemis un petit peu moindres, que on n'est pas comme martelé de combat et de combat, puis les espèces de jeux politiques sont moins là. C'est du monde qui ont une quest à faire. C'est quelque chose que j'ai joué des dizaines et des douzaines de fois. Les graphiques étaient sublimes. Là. Le CGI était drette à sa place. J'ai adoré aussi la manière que l'histoire se déroulait, là. C'était pas forçant. J'ai beaucoup aimé aussi le résumé au tout début du premier film, là. Ça immersait, c'est très immersif tout de suite, là, le bout dans la grande cathédrale, là, sous les de voir les paysages. Ça a été une franche réussite, là. Je donnerais genre plus 7, peut-être même plus 8,3 au premier, mais le deuxième puis le troisième, ça descendrait dans le plus 7, là, selon.
Oh, ouais. J'ai revu le troisième récemment, là, puis les CGI ont vraiment mal vieilli, le troisième. Et, la grosse bataille des éléphants, là, c'est lettre.
Ouais. À la fin aussi, là, quand il y a vraiment comme un combat de trop à la fin. Là, ouais. Quand, tu sais, c'est... puis là, puis voyons, calvaire, tu sais. Puis pourquoi il n'y a pas... une affaire qui va tout le temps me gosser, là, c'est pourquoi il y avait accès à l'armée fantôme la plus dangereuse de tous les temps. Il aurait pu dire, gars, il faudrait que tu aies checké ça avec Sauron, là, pour. Ce serait cool.
Tu sais, ouais, ouais, ouais. L'attaque suicide de la fin, là.
Ouais, ben, c'est à la fin du quoi, du 3, là.
Ouais, oh, ouais, c'est ça.
Oh, en tout cas.
C'est un peu niaiseux. Ouais. Mais en tout cas, moi, le premier tiers du premier film, j'ai encore des frissons, là, la scène où ce que. Bilbo, il fait son malcommode avec Gandalf, puis Gandalf, il dit un magicien de pacotille, là, puis t'entends la maison qui craque, là, c'est tellement cool. Là.
Moi, c'est les bouts dans la grosse montagne, là, quand la Balrog arrive, puis qu'on voit un géant des collines, genre un ogre, là, ou un troll, là, je me rappelle plus trop.
Un troll.
Ouais, ça, ce bout-là, j'ai bien aimé ça. J'aime plus quand ils se battent contre des monstres que contre des dans un saut. Voilà, mais écoute, ça reste des bons films, mais pour les romans, j'ai déjà essayé de lire ça, parce que je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune, puis dans le premier roman, à un moment donné, il y a un escalier en chaîne, puis là, je réalise que ça fait une page et quart qui en parle, puis j'ai fait « Ah, oh, c'est pas pour moi, ça, j'ai fermé le livre, puis j'ai arrêté. » J'avais fait la même affaire comme quelques jours avant avec... Les Tommy Knockers de Stephen King. J'ai bien aimé Stephen King. Puis là, à un moment donné, vers comme la 300e page, il décrit le pick-up de la madame. Puis c'est trois pages de pick-up. Là, je l'achèterai pas. Là, puis après ça, je me suis dit, m'a continué. Puis deux pages après, c'est les menstruations de la madame qui deviennent comme sujet de... C'est, voyons,
c'est Tommy Knockers, c'est pas reconnu comme étant un de ses meilleurs. Puis ça fait partie des raisons que le monde entend. Les fans de Stephen King ont tendance à dire que ses films ne rendent pas justice aux romans. Puis moi, je check ses romans. Je fais comme si quoi, j'ai pas la patience. Moi, le film de série B, moi, l'écouter, puis je vais le trouver bon. Genre.
Comprendre le concept, puis les personnages, puis les enjeux. Là, des fois, c'est mieux fait. Là, comme La part des ténèbres, j'ai beaucoup aimé le film, mais le roman est beaucoup meilleur. Là, puis Marche ou crève aussi, là, c'est
pas mal. Ah oui, ça, c'est bon.
Les Richard Bachman. Là, ça. Anyway, on est vraiment rendu loin de Magic.
Moi, juste une petite question.
On sait jamais quand ça pourrait arriver, le Universal Beyond.
Seth Stephen King.
Le Seth Stephen King, je suis sûr qu'il s'en vient.
Le Doctor Who, pourquoi pas Stephen King.
Ça va être The Dark Tower en Magic, puis It.
Mais question de même de Lord of the Ring, vous autres, vous préférez-vous le Balrog avec ou sans elle?
Avec, clairement.
Avec, mais tout décharnu, puis tout. C'est un membre de plus, il est plus fort.
Ah, ok, ouais.
C'est sûr qu'en disant grotte de même, ça ne sert pas souvent, là, mais tout bad. Il n'y avait rien qu'à mieux gérer ses acquis.
Avec ou sans pantalon.
Ouais. Ah, ouais, ça, c'est
le Balrog, Karn, même combat.
Ça dépend si on est sur Twitch. est-ce qu'on s'en va vers la carte de la semaine?
J'ai-tu compris? Ben, on peut faire la carte de la semaine, puis après, on check des previews.
Après, ça va être juste du Magic, là, bon.
Merci beaucoup tout le monde d'être avec nous. Pour ce terrain basique, on se va vers la carte de la semaine, présentation de l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est, mais ce sera pas avant d'écouter une petite tranche de Beat Abonde. Ok, carte de la semaine.
La carte de la semaine. Écoute, la carte de la semaine s'est choisie toute seule cette semaine. Évidemment.
Appelé.
Tout seigneur, tout honneur. Laissez-moi vous partager ça. Vous irez voir ça sur le YouTube et sur Facebook. Évidemment, c'est le Seigneur des Anneaux, les anneaux. Alors, il y aura des anneaux, bien sûr. Ils nous ont montré, c'est des reprints qui vont sortir dans la version Commander de Lord of the Rings. Ça va être des reprints de Soul Rings, un classique de Magic, qui vont sortir en différents prints avec inscrit en elfique, en langage elfique, puis avec les ça va être le flavor text au lieu d'être du rule text qui va être dessus, et le flavor text sera le fameux poème que tout le monde connaît là, qui connaît un peu le Seigneur des Anneaux là, trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre et 9 pour les hommes mortels destinés au trépas. Et puis ils seront également printés de façon sérialisée. Serialized, là, en tout cas, édition
Brothers War, là, numéroté.
Oui, il avait fait ça aussi, effectivement, avec certains des artefacts dans Brothers War, là, qui en avait 500 là, de chaque, avec un traitement spécial double rainbow foiled. What does it mean? Donc, il y aura comme 300 Elven Soul Rings. Il y en aura 700 pour les nains.
Ah, c'est concept.
Puis 900 pour les hommes. Alors oui, ils suivent un peu le poème.
Ouais, c'est concept.
Mais c'est pas ça, la carte de la semaine.
C'est vraiment pas ça.
Bien sûr, parce que la fin du poème, c'est un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et tous les ténèbres et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Alors, c'est The One Ring, l'anneau unique et le seul, l'unique, qui est pour 4 colorless, un artefact légendaire indestructible, évidemment, à moins que tu aies accès facile au monde Doom. Le One Ring rentre sur le battlefield, si tu l'avais casté, tu gagnes protection contre tout jusqu'à ton prochain tour. C'est concept. Au début de ton upkeep, tu perds un de vie pour chaque counter burden de fardeau qu'il y a sur The One Ring, parce que plus tu
Plus tu t'en sers, plus,
plus l'influence de Sauron se fait sentir, plus le fardeau de le transporter jusque dans le volcan se fait ressentir. Tu peux le taper pour mettre un Burden Counter sur l'anneau unique, piger une carte pour chaque Burden Counter qu'il y a sur l'anneau unique.
Qu'est-ce que c'est fort?
C'est fort ouais, et le monde a déjà commencé à trouver des façons pour le briser.
Je suis
sûr que Jason pourrait en sortir.
Oui, tu veux que je te passe ça maintenant?
Attends un peu parce que je suis pas vraiment rendu à vraie carte de la semaine.
Il aurait dû mettre que tu pouvais pas le sacrifier, ça aurait été quelque chose.
Parce que la vraie de vraie carte de la semaine, si vous avez suivi, il y en avait 900 pour les hommes, 700 pour les nains, 300 pour les elfes et
check ça, Tommy.
L'anneau unique. Il ne peut y en avoir qu'un et il y en aura effectivement un seul. Ils vont faire
imprimer une seule fois.
Un golden ticket, si vous voulez, le Willy Wonka Factory. Il y aura un seul printing de cet anneau-là spécial en dark speech là, avec le symbole 1 de 1. Un seul dans le monde qui va être dans dans un des collector boosters de langue anglaise. Fait que si vous voulez essayer de vous acheter un ticket de loterie, c'est là que vous... Vous pourrez essayer de le trouver. Alors, bonne chance à tous. Ça sera une carte.
Je veux voir une vidéo. Si un mardeux ouvre ça en magasin, là,
je veux
une vidéo de la réaction des gens autour de la table, là, comme Bilbo dans le film.
Ou qui joue à Flip or Repeat. Là.
J'adore le concept, mais c'est un peu comme il y a 3 mois, quand ils sont arrivés avec Brothers War, puis il y avait les cartes. Les cartes numérotées, ça a pogné, fait qu'ils rentrent ça comme façon de monétiser le jeu, là. Je fais que, c'est vraiment, vraiment cool pour Lord of the Ring. Mais j'ai un petit peu peur d'avoir comment qu'ils vont récupérer puis monétiser le concept dans 3 mois. J'suis un peu nihiliste là-dessus.
J'aime ça. Moi, qu'ils trouvent une manière de satisfaire les collectionneurs comme ça, les hardcore, de mettre des séries limitées puis qu'ils reprennent à place, mettons, des Dual Land éventuellement ou d'autres affaires de même. Là, ça, je suis totalement pour ce concept-là. Moi, plus qu'il y a de variété, plus je vais être content. Fait que c'est quoi après cette carte de la semaine?
Attends, je voulais juste mentionner là parce que.
On a parlé de façon de le briser.
Il y a plein de façons de le briser. Là. Juste là, Voltaïque.
On se rappelle que ce set-là va être légal en moderne. C'est un set qui est straight to modern.
Oui.
Fait qu'il y a déjà accès à pas mal de cartes pour s'en servir.
Moi, à date, là, je m'amusais de mon bord à chercher. Là, juste Voltaïque en multiplayer là, ou en Legacy, juste avec Voltaïque, elle va être épeurante. Parce que Voltaïque te permet d'untaper un artefact. Fait que tu le tapes une fois, tu piges une carte, tu l'untapes avec ton Voltaïque, tu la retapes, tu vas piger 2 cartes. Puis si t'as un deuxième Voltaïque, puis là tu la retapes, ou le tour d'après, là tu vas piger 4 cartes. 3, 4, tu comprends? C'est qu'à chaque fois que tu le reset, tu piges en masse. Ça me fait beaucoup penser à Nécropotence dans le temps. Là. C'est pas bien grave que tu perds de la vie. C'est vraiment fort. Puis j'ai remarqué là, une carte qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît, mais je pense que ça se combo bien avec. C'est l'Ombilicus dans Urza Saga qui est 4 colorless. À chaque upkeep d'un joueur, tu payes 2 de vie. Sinon, tu dois retourner un permanent que tu contrôles dans ta main. Je pense que ça va être le fun d'utiliser ça pour constamment remettre ton anneau en jeu à chaque tour pour être protection jusqu'à ton prochain tour.
Ah, il y a ça aussi, ben oui.
Parce que, tu veux tout le temps le rebouncer. Là. Pour que ça marche, il faut que tu le casses. Tu peux pas juste l'exiler puis il revient. Mais Ombilicus, gratuitement, te ramène quelque chose dans la main à chacun de tes upkeep. Toi, Emmanuel, qu'est-ce que tu as vu d'autre dans le même style?
J'essaie de le retrouver, là, mais je le retrouve plus. Fait qu'on passe à autre chose.
Donnez-nous en commentaire vos synergies avec The One Ring.
Il y a une carte. Ça va peut-être te dire que t'as quelque chose là. Quelque chose. Tu discartes une carte puis tu untap target permanent.
Non.
Peux-tu? Non.
Non.
Parce que quelque chose qui ressemblait à ça. J'essayais de la retrouver pendant que tu jasais, mais ça va nous revenir. Vous nous posterez ça dans les commentaires. Fair enough. C'est tout pour la
semaine.
Merci beaucoup à vous deux, hein, puis à Jonathan aussi, hein, il était là, il checkait, il est... Oh, allô, on va réécouter du beat à bone, puis l'autre bord, on jase l'or. Ah, fait qu'on jase de l'or de quoi, là?
Non, on jase pas l'or, là, Tommy. Là. Faut
pas de l'or.
Faut suivre l'actualité. Ouais. On s'est fait scooper par Magic.
Ouais.
Parce que c'est ça, ils se sont mis à nous sortir. Dans le fond, c'est ce qu'ils font, là, c'est les first look qui appellent. Si vous dites, mais voyons donc, c'est bien trop tôt, le 7 sort dans, je sais plus combien de mois, ça sort en mai, même juin. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est parce qu'ils font toujours ça, une espèce de first look. Puis honnêtement, c'est plus destiné aux magasins qu'aux fans pour leur montrer un peu comme qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils vont commander par la suite. Puis à un moment donné, ils se sont dit, ben tant qu'à faire, ça va leaker anyway, ou tu sais, de toute façon. Fait qu'aussi bien, ben le partager au grand public. Fait que voilà. Fait que tu sais. On se rappelle, là, c'est toujours à peu près la même quantité de temps. Là. Il y a toujours un petit early look là, où est-ce qu'on va voir 10-12 cartes là, du prochain set qui s'en vient. Ça nous le met en bouche et puis ça nous aide à nous garder l'attrait réveillé.
Appetizer.
Ouais, nourrir l'appétit. Mm-hmm. Voilà, je vais vous partager ça. Aujourd'hui, ils ont montré ça sur MTG Weekly. Et ça avait commencé un peu hier, en plus, sur IGN, qui avait montré quelques cartes, dont l'anneau. Donc, The Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth, le nom du set sera LTR et LTC pour le set Commander, parce qu'il y aura 4 decks Commander qui vont sortir avec. Les dates importantes, ils vont commencer les vrais previews le 30 mai. Il y aura donc les previews qui seront étalés du 30 mai au 9 juin. Et puis le pré-release, ça sortira du 16 au 22. Fait que le 16, le pré-release en magasin. Le 20, ça sort sur Arena parce que également ce set-là sera disponible sur Arena. Même si c'est un set là, qui est plus axé pour moderne, ça va aller s'ajouter à historique sur Arena. Et puis ben après ça là, tout le reste, puis on se rappelle, on en avait parlé quand il avait plus teasé le set. Il y aura comme un deuxième release dans le temps des fêtes avec quelques produits complémentaires là, sur le set. Ils ont en fait plusieurs Basic Lands, ouais, le Shire, Hobbiton, dans le fond, ils ont sorti plusieurs Full Art Lands. Où ils prennent des petits bouts de la carte iconique qui se trouve en arrière de Jason, le Mordor qui est une swamp.
La carte de Middle Earth, ouais.
Le Rohan, c'est les White Mountains, là. On voit le Rohan et le Gondor de chaque côté qui sont les montagnes, la forêt de Mirkwood.
Ça, je trouve ça cool.
Tout ça, c'est. Fait que tu reconnais les petits spots, là, qu'on tous les endroits iconiques.
Dans le film.
Oui, c'est cool, en tout cas.
Ouais. Si vous vous demandez, mais là, pourquoi qu'il n'y a pas Numenor comme Island, machin, attendez, là, c'est pas tout qui est sorti encore. Il y a aussi des non-basic land. D'ailleurs, on va en voir deux là, aujourd'hui. Mais je trouve ça cool. La seule critique que j'aurais sur ces cartes-là, c'est que c'est pas évident de voir c'est quel type de land tout de suite. C'est parce qu'elles sont toutes.
Ils sont toutes vertes, hein, on dirait.
Ouais, sur la palette de vert,
brun, là, tu sais.
Tout est vert.
Fait que c'est à part le bout où c'est écrit plein puis le petit symbole dans le coin en bas. Peut-être qu'il aurait gagné à mettre le symbole au milieu, là, comme ils font des fois, là, en plus ouais, évident.
Un watermark, peut-être.
Ouais, mais écoute.
On verra de quoi ça a l'air en vrai une fois que tu
le vois. On va le prendre. Je trouve ça intéressant. C'est un bel hommage là, à leur matériel. Là. Fait que tu sais, justement, parlant de Legendary Land, il y a également, comme tu vois, directement The Shire.
La comté.
Oui, la comté, un Legendary Land qui rentre en jeu. Taper à moins que tu contrôles un Legendary Creature. Tu peux le taper pour un vert, mais tu peux également payer un colorless, un vert pour le taper. Taper une créature untapped que tu contrôles et créer un Food Token.
Ça, c'est Golden Goose, non?
Et pas ta fête parce que t'as pas besoin de sacrifier ton
token. Ah, mais Golden Goose, là, tu tapais un colorless, un vert, t'as tapé, ça faisait un food token.
Oui, tu pouvais faire ça, mais tu pouvais également la taper puis sacrifier un food token pour créer un mana de la couleur de ton choix. Mais là, à la place, ça fait. Mais oui, ça coûte à peu près la même chose là, pour faire un food token. Fait qu'on voit déjà qu'il va y avoir du food token. Spoiler alert, il y a un commander deck de. C'est Frodon et Sam en partner qui est comme actif. Sur la mécanique food. Nice. On va voir la carte de Sam un peu plus tard. Ouais. Oui, puis on voit le flavor text, c'est tous des extraits du livre. Ce sont pas cassés le basic. Là. Fait que c'est vraiment cool.
Ça a dû leur coûter une beurrée acheter ces droits-là, là, mais bon.
Ben c'est en collaboration avec, je me rappelle plus c'est quoi le nom de la compagnie qui a les droits là,
si je me fie à la carte. Là.
Ouais, je pense que c'est de Middle Earth Enterprise ou quelque chose de même là. Mais oui, effectivement, c'est fait en collaboration avec cette compagnie-là. Ça semble être à peu près la même type de collaboration qu'il y avait eu avec Warhammer là.
Ouais.
C'est comme pour le flavor puis le partage du IP là, disons là. Donc voilà, Samwise justement, la plupart des gros personnages qu'on connaît vont avoir plusieurs versions.
Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de légendaires, hein, parce que je voyais
qu'il va y avoir beaucoup de légendaires. Comme on a vu, disons, avec Brothers War, qui avait comme Urza, Uncommon, Rare, puis Mythique Rare, là. Il risque d'avoir plusieurs versions de chacun des personnages. Celui-là, c'est Samwise de Stoutearted, un colorless, un blanc, un Halfling Peasant légendaire, pour 2-1 Flash. Quand il rentre sur le Battlefield, tu choisis jusqu'à un Target Permanent card de ton graveyard qui a été mis dans le graveyard ce tour-ci, et tu le retourne dans ta main. Et puis, l'anneau te tente.
Ça, c'est une nouvelle mécanique.
C'est l'introduction d'une nouvelle mécanique. Ils nous ont teasé, ils n'ont pas voulu en dire plus. On ne sait pas encore exactement à quoi ça va... qu'est-ce qui va en ressortir, là, mais il y a plusieurs cartes. On va en avoir d'autres sur lesquelles ça dit « The ring tempts you », l'anneau t'attire.
Fait corrompre par l'anneau, c'est cool.
Fait corrompre par l'anneau. Fait qu'il y a certaines cartes qui vont se soucier de ça. Est-ce que ça va être une autre mécanique à part ou est-ce que si t'as 10...
Comme un poison counter, ouais, peut-être.
Ouais, moi, je dirais c'est un donjon, mais juste des effets négatifs.
Ou peut-être.
Mais je sais pas, il y a le pouvoir qui vient avec aussi. Puis le flavor text, Tammy, si tu veux nous lire ça, c'est un bon. Là.
You hurt my master, you brute, and you'll pay for it. Vous avez blessé mon maître, vous brute, et vous allez le payer.
C'est flash, hein, fait qu'il s'en vient sauver.
C'est ça. Sinon, qui dit Sam dit Frodon. Ça, c'est la version rare. On va voir, là, il est sur le bord de la lave en train de peut-être lancer l'anneau ou de résister à lancer l'anneau. Frodon, Sauron's Bane pour un blanc, un Halfling Citizen, créature légendaire 1-2. Tu peux payer 2 mana hybride blanc-noir pour le. Si c'est un Citizen, le transformer en Halfling Scout avec Base Power 2-3 et Lifelink. Et tu peux payer 3 noirs. Hein, la corruption commence à se faire sentir, mais il devient de plus en plus aventurier. Si c'est un Scout, il devient un Halfling Rogue qui dit qu'à chaque fois que cette créature fait du combat damage à un joueur, le joueur perd la partie s'il a été tenté par l'anneau 4 fois ou plus. Sinon, l'anneau te tente. En fait, c'est si toi tu as été tenté par l'anneau 4 fois. Fait que si tu fais des dégâts 4 fois avec Frodon transformé en Halfling Rogue, tu gagnes la partie là, ou l'autre perd la dite partie. Fait que c'est une des façons que peut-être qu'il va y avoir des interactions
ring temp you matter.
Avec la temptation.
Ouais.
donc on voit bien la saveur qui
Ah, c'est vraiment cool.
Ils ont
bien allié les mécaniques avec le lore.
Ouais. Un classique, You Cannot Pass, puis les certains vont crier, mais c'est You Shall Not Pass. Si vous retournez voir dans le livre, c'est You Cannot Pass.
Oui.
Je dis ça comme ça. Donc, c'est un instant pour un blanc. Destroy target creature that blocked ou was blocked by a legendary creature this turn. T'as parlé des créatures légendaires, fait que tu vois déjà qu'il y a un thème qui ressort. Là, les legendary creatures sont importantes, fait qu'il risque d'en avoir beaucoup, effectivement. Et puis, ben, on voit la scène iconique là, sur l'image là, de Gandalf et le Balrog sur le pont. Parlant de Gandalf, une première version qu'on a trouvé, Gandalf the Grey, qui est là et qui n'est pas gris, qui est bleu-rouge, parce que c'est un wizard, c'est un avatar wizard, en fait. Trois colorless, un bleu, un rouge pour une 3-4. À chaque fois que tu castes un instant ou un sorcery spell, tu choisis une des options qui n'a pas encore été choisie. Soit tu tapes ou tu untapes un permanent de ton choix, Gandalf the Grey fait 3 dommages à chaque adversaire. Soit tu copies target instant or sorcery spell que tu contrôles et tu peux choisir un nouveau target ou tu mets Gandalf sur le dessus de ton library, ce qui te permet de le recaster au prochain tour et de recommencer à choisir des nouveaux, les options qui avaient déjà été choisies, parce que quand tu le
rends, ça
reset. Oui, il y a Jason, il chialait, là, il le trouvait pas bon. Là.
Non, c'est qu'ils l'ont mis rouge. C'est parce qu'ils l'ont mis rouge, puis là, j'étais comme, pourquoi Gandalf est rouge? Puis là, j'étais retourné fouiller, puis j'ai trouvé ma réponse.
Ah!
C'est que quand il affronte Balrog, Gandalf, il dit, gars, j'ai la citation, hein. Je suis le serviteur du feu sacré, détenteur de la flamme d'Anor. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune. Vous ne passerez pas. Fait qu'il y a comme le spell casting de Gandalf a rapport avec du feu, hein. Il dit qu'il est détenteur de la flamme sacrée. Fait que c'est correct qu'il est rouge.
Ouais,
c'est
finalement.
C'est flavor. Ça fait. Cependant, je trouve que c'est que quand il confronte Bilbo dans la maison, là.
Ouais.
Puis il dit, attention Bilbo, je ne suis pas un magicien de pacotille. Je trouve que en anglais, c'est Peddler of Cheap Trick.
Ok.
Je trouve que ça fait très Peddler of Cheap Trick. qui fait comme des. Tu sais, comme à chaque fois que tu fais un spell, ben Gandalf, tu fais un autre spell.
Alors, fais un autre, mais là, Jason.
Non, c'est fort, je fais juste bitcher pour rien.
S'il fait juste dire, je suis pas un Peddler of Cheap Trick, puis ça veut peut-être dire qu'il n'est un pareil, là. Son opinion de ce qu'il dit à l'autre hobbit influençable qui a jamais vu de vache, tu sais, on sait pas, là.
Cette carte-là est cool.
Ouais. Puis on a hâte de voir Gandalf de White.
Moi, je serais curieux de voir les autres essais qu'il y a eu, genre, avant de. Tu sais, ils ont sûrement eu, genre, 8 propositions de Gandalf the Great, puis là, ils ont modifié une, puis ils ont dit, on va garder celle-là. Je serais curieux de.
Ouais, Mark Wazander, il fait ça pour chaque set, hein, by the way, Tommy, sur le site web de Magic, là. C'est tout le temps vers la fin, là, comme un petit peu avant que le prochain set sort, là. Il fait tout le temps un article où ce qui montre les. En fait, c'est les échanges de courriels.
Le build-up, là, ouais. Puis.
C'est vraiment intéressant parce que tu vois, tu sais, un va dire, ah, le toughness est trop fort. Ah, ça, on l'avait déjà fait mieux il y a une couple d'années. On devrait s'inspirer de ça. C'est vraiment cool de voir les échanges de courriels, là. Oh.
Gandalf the Grey, j'ai l'impression que tout le monde autour de la table avait son opinion.
Et puis, on peut voir un traitement qu'ils vont faire avec les personnages, justement. Ils appellent ça le ring treatment ou quelque chose comme ça. Ou est-ce que ils vont toujours montrer le 10 personnage dans un moment de doute, peut-être, ou un moment où est-ce qu'il n'est pas à son meilleur. Puis, fait que là, ici, c'est quand il tombe avec le Balrog dans le fond du
avec son fouet.
Pit, là. C'est le ring frame qui appelle. Là. Ça laisse vraiment.
C'est cool.
Moi, je déteste ce frame-là.
Parce que ça laisse pas assez de place à
l'autre. Ouais, c'est le. Là, c'est pas super, là, mais justement, je préférerais avoir une full art de la merveilleuse illustration.
Ouais.
Qui est peut-être à rajouter le ring puis le langage elfique, mais je considère que il y a beaucoup de l'espace de la carte qui est perdu.
Non, c'est parce que l'écriture qui est autour fait aussi partie du dessin, je trouve. Ça raconte une histoire.
Ouais.
J'ai aucune idée qu'est-ce qui est écrit autour, là, mais...
Ils ont tablé bleu et rouge. Ouais.
Et... Oh, un Counterspell dans le black!
Eh là là! Magic calmez-vous, mort. Calmez-vous, là, c'est juste Reprieve, là, c'est
couleur une carte. Trop forte.
Un colorless, un blanc pour un instant. C'est une uncommon qui dit Return target spell to its owner's end et pige une carte.
Elle se remplace elle-même.
C'est dans le blanc, là, comme on pouvait s'y attendre.
Hey, c'est fort. C'est comme un Remand puis un Unsubstantiate.
C'est super fort.
Il se remplace, c'est vraiment fort.
Ça va tuer Magic. Mais c'est une belle image là, de Faramir et Eowyn qui découvrent leur amour après la guerre. C'est bien cute.
Mais le fait qu'il coûte deux, peut-être.
Deux, à deux, ça coûte. Ça
serait un
impensable. Ça serait la mère blanche, les nerfs. ouais. Sinon, ben, un personnage classique que tout le monde chialait qui n'était pas dans les films, c'est Tom Bombadil. Il est là et peut-être répondre ou continuer la discussion sur certaines des discussions de lore des nerds de Lord of the Ring. Tom Bombadil, son creature type, c'est God Bard. Il coûte Wooburg, donc les 5 couleurs pour une 4-4 légendaire et tant que tu contrôles 4 Lore Counters ou plus parmi les sagas, que tu contrôles, Tom Bombadil a Hexproof et Indestructible. Et à chaque fois que le chapitre final d'une habilité dans une saga se résout, tu révèles des cartes du top de ton library jusqu'à ce que tu révèles une saga, tu la mets en jeu et le reste sous le bottom de ton library random. Et cette habilité ne s'active qu'une seule fois par tour. C'est un commander
de saga.
C'est intéressant, je trouve ça.
Puis 5 couleurs, fait que t'as des sagas dans chaque couleur.
Dans les dernières années, il y a eu de plus en plus de sagas qui sont sorties. Fait que je pense qu'il y a du support pour ça. Fait que je suis curieux de voir ce qui va se
ça va être le fun de bâtir autour de cette carte-là.
Absolument. Et là, ça reste à voir parce qu'on n'a pas vu encore. Est-ce qu'il va y avoir des sagas dans le set? Possiblement, je veux dire.
Je pense que oui. Il y a tellement de vieux lore invoqués dans les histoires de Lord of the Rings.
Ce sera peut-être des bribes du Silmarillion. On verra.
Moi, je te dis, il va avoir du rein creuse trop creux dans la Moria. Là. Oh oui. Il y a plein d'allusions comme ça qui est fait dans le livre à des vieilles histoires. Ça fait des sagas directement. Là.
Absolument. Alors, le bon vieux Tom qui est là. Gollum, autre... qui est là.
Horror, cool.
Halfling Horror, le Patient Plotter. J'imagine que lui aussi aura plusieurs cartes. Là. C'est un personnage quand même assez important. Ouais. C'est un colorless, un noir pour une 3-1. Quand il sort du battlefield, l'anneau te tente et tu peux payer un noir, sacrifier une créature et ramener Gollum de ton graveyard dans ta main seulement en sorcery.
Ah, c'est bon.
Pas pire, hein? Reste à voir ce que la tentation va faire, là, mais pour une 3-1.
Ouais, c'était ça, moi, mon. Parce que un 3-1 qui coûte 2 avec un pouvoir et qu'il faut que tu sacrifies une créature pour le ramener, c'est juste ordinaire. Là.
Alors, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Sinon, le mont Doom, on en a parlé, un autre land légendaire, tu peux le payer un de vie pour ajouter rouge ou noir. Tu peux payer un colorless, un noir, un rouge, le taper pour faire un dégât à chaque opponent, ou tu peux payer 5 colorless, un noir, un rouge, le taper, le sacrifier, ainsi qu'un legendary artifact de ton choix. Possiblement l'anneau, effectivement. Choisir jusqu'à 2 créatures et détruire le reste activé seulement en sorcery. Et puis là.
Ouais,
Destroy the rest. Est-ce que ça dit toutes les permanents ou toutes les autres créatures? Je pense que les autres créatures.
Destroy the rest. C'est créatures, il aurait précisé. Oh, c'est des créatures.
C'est vrai que c'est ambigu, hein?
Ben, tu sais. Destroy the rest?
Non, c'est pas ambigu.
C'est les créatures.
Do creatures, then destroy the rest. C'est dans
the Wrath of God.
C'est ça. Il explose, puis il reste juste Sam et Frodon.
Ou Gollum.
Ouais. Ou Gollum. Mais Gollum, je pense pas qu'il s'en sort. Fait que j'ai sorti les frames, là. Il y en a
d'autres. Ah, barnac, là, il y en a un petit paquet, là.
Ben, c'est les cartes qu'on a déjà vues. C'est juste un traitement différent, ouais, là. Donc, Frodon, okay, Samwise, tout ça, là. On arrive à la fin, là. Ça, c'est les cartes du set principal, qu'on a vu. Puis après ça, il y a quelques cartes du Commander Deck. Il y a également un traitement spécial qu'ils ont fait.
Ouais, ça, c'est cool, le mosaïque.
Que je trouve très cool, oui, effectivement. Que quand tu mets les quatre cartes ensemble, là, des cartes qu'on a vues, le Frodon, Samwise, Gollum et The One Ring, ça fait une scène au ouais. complet. Et puis, c'est pas les seuls. On sait pas encore ça va être quoi les cartes, là, mais ils ont déjà teasé une mosaïque de 3 par 6. Là.
Ouais, ça, c'est la bataille.
Tu ramasses, ouais. Et ça, la grosse bataille finale, là, que tu ramasses 3 cartes par 6 cartes, là, fait que 18 wow. cartes différentes pour faire
la grosse scène. Là.
Moi, je call un alternate win victory. Si vous jouez contre moi, si vous réussissez à faire cette musique-là, you win the game.
On verra, hein, on sait pas c'est quoi les couleurs de ces cartes-là, puis c'est quoi les types. Là. Il y a probablement des instant, des sorcery, mais non, j'abonde dans ton sens. Si tu réussis à avoir casté toutes ces cartes-là, qu'elles soient dans ton graveyard ou sur le battlefield.
Mais on voit dans le dessin, là, regarde en bas à gauche, c'est des chevaliers du Gondor.
Ouais, ouais,
la carte à côté, c'est clairement des éléments
où tu peux les splitter. Là, il se passe de
tu
quoi?
Tu vois déjà, là, en haut, les éléphants. T'as les chauves-souris, c'est une carte. Les dragons, c'est une autre carte. C'est tout des permanents, je pense.
Je pense qu'il y a certaines de ceux-là. Par exemple, là, si tu vois les chevaliers du Gondor qui chargent, ou du Rohan, ouais, c'est du Rohan. Ouais, ça pourrait être un overrun. Là, ça pourrait être,
peut-être. Ben, mais des affaires. Si on fait ça, c'est toutes des summon creatures.
Oh boy, yeah. Bien. Bien, il y avait à terre, ça pouvait être ça. Hey, Aragorn est rendu black.
Oui. Ben, Aragorn, écoute, ce qu'il voudra, là, c'est le monde chiale, là. Ils ont changé la race d'Aragorn.
Ben, les noteuses et tout.
C'est un humain, là, tu sais. Ça reste un humain. En tout cas.
J'aurais vraiment chialé s'il l'aurait mis elf. Ça
oui, c'est ça. Ça, oui, c'est ça. Mais là, ouais, il sera black. Là. On partira pas de débat là-dessus. Aragorn et Arwen mariés. 4 colorless, un vert, un blanc. Ça, c'est une carte du 7.
C'est du 7 normal.
3-6, vigilance. À chaque fois que Aragorn et Arwen mariés rentrent sur le battlefield ou attaquent, tu mets +1/+1 counter sur chaque autre créature que tu contrôles et tu gagnes 1 de vie pour chaque autre créature que tu contrôles.
Wow.
C'est musclé.
Oui.
Musclé. Ouais. J'ai vraiment hâte de le voir en version Grandpa Ranger Badass.
Ouais. Ben, je pense justement, là, tu sais, je pense que c'est lui qu'on voit dans la mosaïque en bas.
Ouais, je pense
que
oui.
Au centre, là, ça y ressemble. Hein?
Ouais.
On verra, mais oui, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres versions d'Aragorn. Sinon, Sauron. Hein, ça nous prend un pas fin pour 3 colorless, un noir, un rouge, un avatar horreur 4-4. Quand Sauron de Lidless Eye rentre sur le battlefield, tu gagnes contrôle de target creature contrôlé par un opponent jusqu'à la fin du tour. Tu l'untap à gang haste et puis tu peux payer un colorless, un noir, un rouge et les créatures que tu contrôles ont +2/+0 jusqu'à la fin du tour et chaque adversaire perdre 2 de vie. C'est nasty. En fait, je pense que ces deux cartes-là, si ma mémoire est bonne, on pourra en reparler, mais je pense que c'est des... pas des box stoppers là, ou des... c'est des cartes promo là, qui sont pas dans...
Ouais, que tu pognes pas dans le draft, là.
Ouais, c'est ça.
Ouais, je pense aussi.
À confirmer, là, mais voilà, il me semblait qu'il y avait quelque chose de spécial avec ces cartes-là.
Ouais.
C'est que ça s'en va dans le starter kit.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Si on casse, là, s'il se tasse la tête pas comme il faut, là, il peut rester avec le casque comme poigné dans ses épaulettes. Bah, pas de pratique.
Hey, j'ai une question pour toi, Jonathan.
Qui est surpuissant.
Ah, excuse, il parlait du casque, ça m'a tout de suite fait penser à Steve Ditko, mais continue avec ta question.
Tu trouves-tu que. Regarde son casque, là, puis même sa face, là. Penses-tu qu'il y a du AI qui a été utilisé dans le premier jet? Tu sais, comme je me mets à regarder beaucoup de art en AI, là, puis on dirait qu'à ce temps, je regarde des arts sur des cartes en intelligence artificielle, là, puis je vois des ressemblances. Tu sais, Midjourney, les gens utilisent le logiciel Midjourney, là, puis je trouve que les faces sont tout le temps pareilles, là, c'est tout le temps des faces très maigres.
Ben, l'affaire, c'est que c'est genre un genre de question d'œuf. D'œuf ou la poule, c'est que
le AI a pris eux pour faire son
ben,
truc.
C'est ça, je l'entends aussi. Là. On s'entend, là, genre les Wizard of the Coast, c'est un des plus grands embaucheurs d'illustrateurs, surtout fantaisistes, qui a un style hyper populaire, hyper constant.
Ouais.
Fait que si tu veux construire une base de données d'images pour nourrir une base de données.
Oui.
Les chances sont que quelque part, t'as beaucoup de Magic the Gathering contemporain, là, genre, j'imagine pas nécessairement.
Ouais, c'est bien.
Puis, une fois que ça c'est fait, puis moi je pense que c'est clairement ce qui est arrivé, là, puis genre, je le vois aussi avec, comment on les. Le monde qui font du AI pour des visual novels, des affaires de même, là. C'est toujours le même style, hyper comme, tu peux voir de où les dessins. Puis ça, je trouve ça un peu malhonnête, mais bon, regarde, on rentre pas sur l'AI. Et inversement, je trouve qu'on commence, depuis les derniers mois, ce que je commence à voir, c'est que les illustrateurs, comme tu le dis, vont nourrir ils vont faire différents tests avec justement AI pour peut-être faire des justement comme ta composition d'image que c'est déjà fait, puis ton choix de couleur, il va peut-être te sortir un contre-éclairage qui va te sortir de ta zone de confort. Fait que, regarde,
c'est
pas
ça, je dis comme la première base.
Ouais, la première base. Ou sinon, si tu fais ton jet, tu le nourris dans l'AI, puis il va peut-être comme en shootant 2-3, quelque part dans. Je vais même aller jusqu'à dire que si c'est pas vrai pour ce cas-là, ça va l'être dans plus de très prochainement.
Plus en plus, ouais.
Puis je vois même pas ça comme une comme quelque chose de nécessairement mauvais. Puis je te dirais, moi je faisais beaucoup de présentations visuelles pour le retailing pendant un bout, le linge.
Ouais.
Puis quand. Je sais que je pars de loin, là, mais le.
Non, vas-y.
Avant n'importe quel projet marketing, que ce soit un poster ou un morceau de linge, la première affaire que tu vas faire, c'est ton mood board, que tu vas aller chercher tes couleurs, tes textures, les polices de caractère, ce que tu vas avoir de besoin. Pas que ça va être les assets directs, juste pour que quand tu parles à tout le monde qui vont peut-être éventuellement travailler sur le projet, ils savent que, OK, on veut de la texture de bois, ça se passe dans les années 70, puis c'est tel type de... Puis c'est super important aussi dans Magic, c'est ce qui fait que toutes tes illustrations, quand on voit Jace, c'est toujours Jace, puis il a l'air de fitter quand on le met à côté de Chandra, puis tu sais, c'est pas... Mais là, ça, il y a du AI, fait que tu peux juste tout prendre tes affaires de ton mood board, puis tu viens de t'économiser comme 30 heures de travail, Ouais, j'ai le feeling que c'est ça, puis ben... En plus, pour... Comme je dis, autant pour les avantages que les désavantages, il y a beaucoup de critiques qui ont été dites depuis les dernières années qu'il y a un feeling samey de toutes les illustrations Magic.
Un feeling quoi?
Que tout a l'air similaire. Tu sais, il y a deux, trois artistes qu'on fait comme lui, je l'aime. Mais
parce qu'ils sont différents.
C'est ça.
Les autres, on les reconnaît pas. T'sais.
C'est à peu près ça. Pas qu'ils sont mauvais, loin de là. Mais il y en a deux, trois designs que... Ceci dit, comme je te dis, j'ai aucune preuve que c'est ce qui a été fait là, mais s'il l'a pas fait, moi, j'ai rien contre. Puis j'encourage pratiquement le monde à le faire. La seule chose que je décourage le monde, c'est que quand vous nourrissez le AI, ben, payez les droits d'auteur, faites-les respectueusement de ce que tu donnes dans la base de données, genre. En tout cas, c'était... Bon... Je me suis écarté beaucoup.
C'est super intéressant. Puis je pense que c'est une bonne boîte à se garder pour quand on aura un artiste de Magic sur le show.
C'est exactement pour des commentaires de même que tu es ici, Jonathan.
Yeah.
Excuse-toi jamais de faire de même.
voilà. Alors, pour en revenir à Sauron, c'est ça. Il est là. On voit le Palantir dans. Qui est là, puis même ses doigts qui manquent, qui vient de se faire coter, là, il a perdu l'anneau. Là. Sinon, ben là, on arrive dans des cartes qui ont teasé pour les decks de Commander. Je parlais d'un deck de nourriture. Food. Yes, c'est Sam de Loyal Attendant, Halfling Peasant pour un colorless, un vert, un blanc, une 2-4 qui se partner avec Frodo, The Adventurous Hobbit. Je vous le dis tout de suite, on l'a pas encore vu, là, Frodo, fait qu'on sait pas ce qu'il va faire. Au début du combat, à ton tour, tu crées un food token et les habilités d'activation des foods que tu contrôles coûte un colorless de moins à activer. Fait que le Gingerbread Man coûte 0 à rendre imbloquable. Qui est comme, c'est comme le seul autre exemple de foods que j'ai trouvé qui n'est pas un food token exactement. Là.
J'aime ça, c'est le même le déjeuner après le dîner.
Ben oui, c'est ça. Ça fait dîner. Se demander est-ce qu'il y aura une carte qui va s'appeler Second Breakfast.
Second Breakfast.
On verra. Sinon, un autre fan favorite, Radagast Wizard of Wilds. Deux colorless, un vert, un bleu pour un autre Avatar Wizard qui a Ward 1, c'est une 3-5 qui donne Ward 1 également à toutes les bêtes et birds. Et à chaque fois que tu castes un spell de mana value 5 ou plus, tu choisis soit de créer un 3-3 Green Beast Creature Token ou un 2-2 Blue Bird Creature Token avec Flying. C'est l'ami des animaux, c'est Radagast.
Ça se met-tu dans ton deck d'oiseaux, ça, Tommy?
Ben non, il y a du vert, il est bleu-blanc.
Ah, c'est vrai, t'as pas de vert dans ton deck d'oiseaux.
Et Ward 1, c'est tel que tel, je sais pas... Je dépeignerai pas ma maison pour l'arpent d'autres couleurs à cause de ça.
Non, bon. Sinon, c'est pas mal ça. Écoute, on est rendu au bout. On a fait le tour des previews.
Mais on appétit!
Teaser. Là, ben, j'ai perdu
le bouton. Fais escape. Et voilà.
Voilà. Bon. On est libéré.
Fait que c'est la fin du show?
C'est la fin du show, si vous voulez. J'ai plus rien à vous dire.
Oh, rien. Si je m'attendais à avoir du lore, j'ai été très surpris. Merci tout le monde d'avoir participé. Joe, tu nous rappelles c'est quoi la trame sonore qu'on entend?
Warlock Armageddon sur Super Nintendo. Je vous encourage à écouter le film, idéalement entre amis. Puis si vous avez beaucoup de patience, essayez le jeu.
Voilà, c'est dit. Merci Manuel pour ces previews.
Un plaisir.
Rassure-moi, par contre, là, il va y avoir comme il y a un autre set qui s'en vient de la fin.
Oui, c'est
des Brothers.
March of the Machine. March of the Machine. Dans 3-4 semaines.
Yep. Puis là, ça va se régler, puis Jace va revenir, puis il va être guéri.
Oui, Tommy. Tout va bien aller, Tommy.
Puis merci beaucoup, Jason, d'être passé aussi. Des petits faits, suivez-le sur Twitter là-dessus. Ben, merci à Martin Godette qui va s'occuper du montage de podcast.com. Merci aussi à Bone pour le beat à Bone, puis à l'adversaire là, parce qu'ils font de la pizza. Puis merci aussi à tous les amis qui nous écoutent. Venez nous rejoindre sur Facebook. Mon nom est Tommy Godette. On est disponible le show sur Spotify. Ouais, c'est ça. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'être... le moins manascro possible.
Membre de la famille H2O Web Media.